Nous sommes en compagnie de Chubing Chu, qui est architecte et chargé de cours à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Villette. Chubing Chu est l'auteur d'une traduction annotée du Yuan Yu, le traité du jardin, paru en 1634, je ne suis pas très sûre de mon accent, mais tant pis, ainsi que du Yuan Ming Yuan, le jardin de la clarté parfaite. Il a participé avec Monique Mosser et Jeannine Barrier à la présentation de Au jardin de Cathay, l'imaginaire anglo-chinois en Occident. Il a publié en 2009, en collaboration avec Stéphanie Olivier, Pékin, métamorphose d'une ville impériale, édité chez Félix Torres, Cherche Midi Éditeur. Et d'ailleurs, nous avions fait une émission sur ce sujet en janvier 2010. Son dernier ouvrage, Jardin de Chine ou la quête du paradis, avec des photographies de Yu Qian Li, vient de sortir aux éditions de La Martinière. Alors, Chubing Chu, est-ce qu'on pourrait dire que l'art des jardins en Chine résume la civilisation chinoise tout entière?
L'art du jardin chinois est peut-être l'une des formes d'art le plus complexe, puisqu'il plonge ses racines dans le profond de la culture chinoise et a des liens absolument intimes. Et si on ne possède pas ces autres formes d'art, en quelque sorte, que sont les arts majeurs de la Chine, c'est la peinture, la poésie, la musique, la calligraphie. Si on n'a pas ces liens, on ne peut pas comprendre l'art du jardin chinois. Alors effectivement, lorsque on veut comprendre la civilisation chinoise, la culture chinoise, le meilleur moyen, c'est d'aller faire un tour, une petite promenade dans un jardin chinois.
Bon, ça c'est assez sympathique comme manière de faire. Alors, en Chine, l'art du jardin rejoint la philosophie.
Alors effectivement, la philosophie et les différents courants philosophico-culturels de la Chine, le taoïsme, le confucianisme et plus tardivement, dans un certain sens, le bouddhisme, puisque le bouddhisme n'est pas indigène à la Chine, c'est venu aux environs de l'ère chrétienne par l'Inde. Le bouddhisme a profondément influencé et on ne peut pas parler de jardin. Puisque ces jardins sont avant tout, alors effectivement, il faut aussi s'entendre sur le thème. Qu'est-ce qu'on entend par jardin de Chine,
Ah bah oui,
puisqu'il
on peut
existe
peut-être commencer à le définir, hein.
absolument. Donc, il y a quatre grandes formes de jardins en Chine. Celui sur lequel peut-être on s'accorde le plus pour, en tout cas dans l'imagerie en Occident et peut-être quelque part en Chine aussi, c'est ce qu'on appelle le jardin de lettré. Et qui a pris forme, dont on voit encore les meilleurs exemples dans la région de Shanghai, dans cette ville de Suzhou, dont nous aurons l'occasion de reparler, qui est la forme la plus connue. Alors après, vous avez aussi des jardins impériaux, comme le palais les palais d'été, les jardins monastiques, et puis les aménagements que l'on fait dans des scènes de paysage. Donc, ils sont les quatre grandes formes, si vous voulez, du jardin en Chine.
Quand est né l'art du jardin chinois?
Alors, vous savez, là, en Chine, on aime bien remonter loin, très loin. Donc, si on veut s'accorder à cette légende, on peut remonter jusqu'à l'empereur jaune, hein, puisqu'on dit que l'empereur jaune possédait un palais d'en bas, qui est le jardin qu'on peut appeler le Xuan. Xuan, alors, a pas plusieurs sens, c'est suspendu, c'est mystérieux. On peut dire que si on veut remonter aux origines légendaires du jardin, on peut remonter à cette période, donc de l'empereur jaune. Mais plus concrètement, on peut dire que les premières formes de jardin étaient certainement liées à la production, puisque est-ce qu'on peut appeler jardin? Ce sont des grands parcs, si vous voulez. L'agriculture joue un rôle important puisqu'on y plantait, on y cultivait, on faisait de la cueillette des fruits, on pratiquait la pisciculture, l'aquaculture, mais assez rapidement, ces différentes formes utiles, utilitaires en quelque sorte, vont s'estomper pour donner davantage de place au plaisir sensoriel. C'est l'endroit où l'on va se promener et sans bien sûr avec, sans oublier bien sûr toutes les formes symboliques que cela suppose, c'est-à-dire aller vers en haut, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire la demeure des immortels, le paradis.
Rejoindre le ciel. Bon, alors l'empereur jaune, pour ceux qui ne sont pas familiers de la chronologie chinoise, ça remonte jusqu'à
Oh
où?
là, c'est très loin, c'est très loin. Est-ce qu'il faut donner une date?
Bah oui, c'est...
Il faut laisser un petit peu de mystère.
Ça fait quand même quelques milliers d'années.
Quelques milliers d'années, tout à fait.
Bon, alors on a parlé des empereurs. Est-ce que ce sont eux qui ont donné ces lettres de noblesse au jardin?
Non, ce sont des lettrés. Dans un premier temps, ce sont des lettrés. Être lettré en Chine, c'est beaucoup de contraintes. C'est un carcan. Et il faut se libérer de ce carcan. Et on parle de jardin, on ne peut pas parler de jardin sans évoquer l'architecture. Bon, bien sûr, c'est un thème récent. L'architecture a été rapportée, ce thème architecture a été rapporté en Chine au début du 20e, à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Donc, dans l'ancien temps, c'était bâtir, construire. Donc, ce sont des maîtres charpentiers, puisque l'architecture chinoise est surtout une architecture d'ossature de bois. Et tout ce qui est... manuel n'était absolument pas considéré en Chine. Donc un lettré ne peut absolument pas s'abaisser à pratiquer la construction. Même si depuis quelque temps on commence à reconsidérer, on sait que les maîtres d'œuvre étaient aussi des artistes et n'étaient pas simplement là pour réaliser se conformer à un certain nombre de règles de construction, à les mettre en forme. Donc le lettré investit le domaine du jardin, puisque ce domaine, l'art du jardin, est en lien, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec essentiellement, mais pas uniquement, la peinture et la poésie. Les deux formes les plus importantes, c'est dans la peinture, le sansui, c'est de la peinture de paysage, la montagne d'eau, et dans la poésie, c'est le genre tianyuan, c'est-à-dire les champs et vergers. Et qui renvoie bien sûr à des grands artistes qu'on pourrait évoquer tout à l'heure si vous souhaitez.
Tout à fait. Alors l'apogée du jardin chinois, c'est quelle dynastie?
Il y a eu plusieurs moments forts, si vous voulez. La dynastie Han, bien sûr, où les éléments essentiels se mettent en place. Le quatrième siècle est important, c'est une période troublée, mais où justement ces temps troublés permettent à un certain nombre de lettrés, ou forcent un certain nombre de lettrés à se retirer de ce que les Chinois appellent ce bas monde, ce monde de poussière, et entrent en érémétisme, donc ils se réfugient dans des lieux où le paysage est superbe, et ils discutent esthétique et paysage, bien sûr. Donc l'érémétisme va donner un arrière-plan très propice à la réalisation de jardins. Et c'est de cette période, donc du IVe siècle, que nous avons un poète tout à fait essentiel dans le développement, dans l'élaboration, la formation donc, de cette esthétique qui est Trao Yuanming. Et encore de nos jours, on dit toujours que la Chine possède deux grands poètes de la dynastie des Tang, qui sont Li Bai et Tu Fu. Mais Trao Yuanming est un poète que nous lisons encore aujourd'hui, dont l'œuvre est restée entière. Peut-être qu'on a perdu quelques pièces, mais les pièces essentielles et certaines pièces sont vraiment constituent le fondement de l'art du jardin, comme la légendaire source des fleurs de pêcher. Hein, qui est vraiment essentiel pour comprendre ce lieu de retraite ou ce monde arcadien hein, où le lettré peut se réfugier. Alors après, vous avez la dynastie des Tang. La dynastie des Tang est considérée comme l'âge d'or de la civilisation, de la culture chinoise, avec notamment ses poètes, Li Bai, Tu Fu, c'est Wang Wei. Il ne faut pas oublier Wang Wei, j'allais l'oublier si ce n'est pas bien. Wang Wei qui est considéré un peu comme l'archétype du lettré, puisqu'il a accompli une carrière mandarinale absolument, je ne dirais pas sans embûches, puisqu'il a eu quand même quelques déboires, mais qui a terminé sa carrière comme ministre des Travaux Publics. Mais Wang Wei surtout qui est poète, hein, l'un des plus grands poètes, qu'on peut classer à côté de Li Bai et Tu Fu. Un peintre, puisqu'il est considéré comme le père fondateur d'un genre, l'encre éclaboussée. Et puis surtout Wang Wei, qui est grand amateur de jardin et qui a réussi à faire cette osmose entre peinture, poésie et jardin. Hein, puisqu'il a réalisé à la fin de sa vie une résidence qui s'appelle le Val de Jante, selon la terminologie du professeur de Mieville, grand sinologue. Et cette villa suburbaine va recevoir une vingtaine de scènes qu'il va aménager. Il va composer une série de poèmes. Donc chaque pièce chante les écrits, chacune des scènes. Et puis surtout, bon, oui, aussi bouddhiste, pratiquant bouddhiste. Et il pratique cette forme qui s'appelle le zan en chinois, qui va devenir le zen au Japon. Et il est très ami avec un supérieur d'un monastère qui jouxte sa résidence. Et ce supérieur va demander à Wang Wei, peintre, de réaliser une longue fresque sur le mur du monastère. Et cette peinture murale va attirer énormément de gens qui vont venir regarder et copier. Et c'est comme ça ici que nous avons un estampage réalisé par un grand peintre du 10e, 11e siècle et qui va nous garder la mémoire donc, de cette résidence. Donc, dynastie des Tang, après vous avez la dynastie des Song, et la dynastie des Song peut être marquée par cette montée en puissance de l'amour, de la passion des Chinois pour les pierres, les rochers, qui constitue peut-être l'élément le plus déroutant pour un visiteur occidental quand il va visiter un jardin chinois. Alors de toutes ces anciennes formes, nous n'avons pas énormément d'éléments, sauf des descriptions littéraires. Vous savez que la Chine est un pays de l'écrit, donc beaucoup de chroniques, de descriptions, mais d'objets réels, subsistants, il en reste très peu. Pratiquement pas, pour ne pas dire pas du tout, et les jardins dont on peut voir aujourd'hui datent essentiellement de la dynastie des Qing. Bon, le jardin dans sa formulation en quelque sorte s'est un peu fixé sous la dynastie des Ming, puisque c'est de la dynastie des Ming que nous avons l'unique traité sur le jardin chinois que nous possédons, qui a été publié vers 1634 par un grand maître jardinier qui s'appelle Chi Cheng. L'ouvrage ça s'appelle le Yuan Ye. On peut traduire par le creuset du jardin, puisqu'il s'agit d'un recueil en quelque sorte, enfin à l'origine d'une sorte de compilation qui sont le fruit d'expériences de Chi Cheng, qui n'était pas seulement théoricien, auteur de ce traité, mais également d'abord un grand praticien, donc qui a réalisé des jardins qui étaient extrêmement célèbres à la fin de la dynastie des Ming. Et tout ceci pour dire que ce que nous voyons aujourd'hui, donc dans la vie de Suzhou essentiellement, puisque la vie de Suzhou, d'après une monographie locale, on parlait de plusieurs centaines de jardins existants dans ces murs, mais aujourd'hui encore, on peut en visiter une vingtaine, une trentaine, selon les possibilités que l'on a de pénétrer ou de refus, puisque certains de ces jardins ne sont pas totalement ouverts à la visite au public. Ouverts au public, on a une dizaine de jardins qu'on peut encore visiter, et tous ces jardins datent, pour le mieux, de la dynastie, de la fin de la dynastie des Qing, et pour certains, mais en tout cas, tous ont été réaménagés. Mais de toute manière, un jardin est toujours le reflet d'une période, d'une époque, d'une personnalité. Et bien sûr, à chaque changement de propriété, il y a de bonnes chances que le jardin soit reformulé.
Alors à propos de Suzhou, il y en a quatre qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je voulais citer cette petite phrase, « Au ciel existe le paradis et sur la terre, Suzhou et Hangzhou ». Je me suis dit que c'est pour ça que l'UNESCO en avait classé quatre à Suzhou, puisque c'est le paradis sur la terre, ni plus ni moins. Alors à propos de paradis, on a évoqué les jardins monastiques et vous avez parlé de bouddhisme. Et moi j'avais l'impression que le jardin c'était un peu le lieu où s'épanouissait le taoïsme et son rapport avec la nature.
Ah, tout à fait, le bouddhisme n'est peut-être pas le courant qui est le plus influencé le monde hédénique dans un certain sens. Je pense qu'il faut remonter davantage au taoïsme, effectivement, puisque l'une des formes les plus perceptibles du paradis dans le jardin chinois, c'est ce principe de faire figurer une ou trois îles sur un plan d'eau. C'est dans le grand classique du Tao, Lietzi, que l'on raconte qu'à l'est de la Chine se trouve la Grande Mer et que dans cette mer se trouvent des îles où demeurent les immortels. Donc depuis la dynastie des Han, même avant, puisque la première référence à cette anecdote ou cette légende donc d'île d'immortalité remonte à la dynastie des Qing, c'est-à-dire la première empire de Chine en 200 avant l'ère chrétienne, où l'empereur, le premier empereur, avait fait figurer une île dans un plan d'eau et avait nommé cette île du nom de Penglai, qui est le nom donné à la première de ces cinq îles d'immortalité décrites dans le Lietzi. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi le confucianisme, c'est-à-dire le paradis n'est pas unique dans l'art du jardin chinois. Il y a plusieurs entrées en quelque sorte, et vous savez qu'en Chine, il n'y a jamais eu de guerre de religion en quelque sorte, et le taoïsme, le confucianisme, le bouddhisme, qui sont pas, on ne peut pas proprement parler, bien sûr, il y a l'aspect religieux, mais c'est avant tout des courants philosophiques, et on peut parfaitement être adepte des trois et pratiquer de manière extrêmement syncrétique ces trois philosophies ou ces trois cultes. Et le confucianisme est extrêmement important puisque je vous ai parlé donc de Tao Yuanming et de cette source des fleurs de péché qui constitue cet univers à l'écart que tous les traits cherchent dans la pratique du jardin. Alors effectivement, il y a le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est les terres pures. La terre pure, le monde de la joie ultime de Amitabha, le Bouddha des lumières infinies. Et le symbolique des fleurs, par exemple, le lotus renvoie vers cette notion de terre pure, et puisqu'on voit toujours les Bouddhas, les Bodhisattvas, toujours en présence de cette fleur de pureté de l'Immaculée.
Alors, dans un jardin chinois, il n'y a pas de symétrie.
Les Chinois aiment, dans le jardin en tout cas, la symétrie est dans l'architecture, l'axialité, la symétrie est dans l'architecture, et parce que l'architecture est placée sous le signe du confucianisme. Donc l'ordre règne forcément, mais dans le jardin, ce qui est important, c'est la notion de découverte, la notion de dissimuler, de dévoiler. Un jardin chinois est toujours un jardin où l'effort doit être présent. On va à la découverte des scènes, et on dit en Chine, un proverbe dit, un jardin réussi est un jardin où à chaque pas que l'on effectue, on a une nouvelle vision qui s'offre au regard.
Et donc il est bon de s'y perdre.
Il faut s'y perdre. Ce serait triste de ne pas se perdre dans un jardin.
Alors c'est un peu la notion d'harmonie à la chinoise.
C'est la diversité. C'est la diversité. Je crois que le chinois aime à se faire surprendre, à avoir ces surprises qui s'offrent à vous à chaque fois que vous changez de direction, à chaque fois que lorsque vous vous promenez dans une galerie, par exemple, la promenade dans une galerie est totalement peut-être assimilée à la contemplation d'une peinture. Vous savez qu'en Chine, il y a deux manières, deux supports pour la peinture, ce sont des rouleaux ou des feuillets. Donc une promenade dans une galerie, c'est de la même manière, vous pouvez avoir la contemplation d'une rouleau, c'est-à-dire une vision continue qui se déroule au gré de votre progression. Mais vous avez aussi la possibilité de regarder à côté, de l'autre côté. C'est-à-dire si la galerie est ouverte, de l'autre côté, vous avez un mur percé de fenêtres. Et à travers ces fenêtres, vous avez des vues comme des feuillets dans un album vers un autre lieu du jardin. Et ceci est aussi une sorte de stimuli pour aller bien au-delà, c'est-à-dire voir de manière différente, pénétrer dans un autre lieu pour voir de manière différente ce que vous avez déjà vu et qui vous offre une autre vision du monde.
En tout cas, c'est l'antithèse du jardin à la française.
C'est une autre manière de voir. Je pense que moi, j'aime le regard croisé. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup. Un pauvre lettré, sa vie est déjà un roman, et il a écrit un texte qui a failli se perdre, qui s'appelle, le titre est magnifique, ça s'appelle « Les six récits au fil inconstant des jours ». Et donc il a vécu au XVIIIe siècle, et il dit « Il faut toujours alterner l'évidence et les mystères, et voit le petit dans le grand, voit le grand dans le petit. Et dans ces six récits, au fil inconscient des jours, il y a un chapitre ou quelques passages traitent du jardin. Et je trouve que ces passages sont extrêmement lumineux. Il n'est pas... Alors, un lettré, peut-être que dans l'âme, tout lettré est jardinier. Et cultive cet espace qui est en soi. Et en tout cas, ce qu'il a écrit, ce pauvre lettré, puisqu'il était totalement démuni, il est certainement mort dans le plus grand dénuement, s'appelle Sanfu. Et je conseille au lecteur de... Et c'est vraiment des récits, des essais absolument magnifiques sur les petits tracas et les grandes joies, ou les petites joies et les grands tracas de la vie quotidienne, et sur aussi comment aménager son espace de vie. Donc ça peut être une petite demeure ou une cour que l'on peut aménager par quelques pierres savamment disposées, quelques bambous ou quelques fleurs.
Bah, toute une philosophie, comme on disait au début. Alors cet agencement du jardin chinois, il doit tout à la symbolique de la cosmologie et du feng shui.
Ah, vous venez de prononcer un mot, mais je me le réserve pour la fin, alors. Oui, symbolisme, tout est symbole. Tout est symbole. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de montagne et d'eau, qui est le terme consacré pour désigner le genre le plus apprécié en peinture. La montagne et l'eau, qui est le yin et le yang, en quelque sorte. Alors, si on veut, par exemple, comparer le jardin avec un corps humain, hein, vous avez la montagne qui constituerait l'ossature, la squelette, l'eau qui est le sang, qui va donner vie à ce corps, et vous avez les deux éléments que sont l'architecture, les bâtiments et la végétation, et l'architecture qui serait cette chair, hein, qui va donner tous les espaces nécessaires à la convivialité, à la vie au jardin, et puis la végétation qui constituerait l'épiderme, la pilosité, et qui va la végétation. Alors si effectivement dans le livre de Qicheng, ce traité de jardin, il n'y a pas de chapitre consacré à proprement parler aux végétaux, mais la végétation est bien sûr partout présente, et c'est par la végétation que l'on voit le temps qui passe, donc le côté éphémère mais aussi permanent dans le jardin. Et c'est ce que Qicheng appelle les quatre périodes de l'année, bien sûr, le printemps, l'automne, l'été, l'hiver. Et c'est la végétation qui donne cette dimension temporaire et temporelle. Et aussi les quatre périodes de la journée, puisqu'on visite un jardin le matin, le midi, le soir, même la nuit, puisque nous avons des peintures qui représentent des visites de jardin la nuit, à la lueur des torches, des bougies, puisque la perception à ce moment-là est totalement différente. Et je dirais que là aussi se différencie la perception d'un occidental et d'un chinois. Un chinois aime bien voir un jardin dans la pluie. Ah. Et pour un occidental, c'est l'horreur. Il faut qu'il y ait un grand soleil. Tandis que pour un chinois, la pluie estompe et donne cette différence de profondeur que l'on peut voir dans un jardin, et qui permet, c'est peut-être là aussi, à Versailles, vous avez la Galerie des Glaces, la Chambre du Roi, vous avez la grande perspective, mais vous n'aurez jamais cela dans un jardin chinois. Un jardin chinois, il faut progresser, aller à la rencontre des scènes.
En tout cas, je retiens l'idée de visiter un jardin la nuit à la lueur des bougies. Et à propos de montagne et eau, je peux citer Liu Yuqi, que j'ai lu évidemment dans votre livre sur les jardins. « La montagne ne tient pas son renom par sa hauteur, mais de l'immortel qui y réside. L'eau ne tient pas son esprit par sa profondeur, mais du dragon qui s'y immerge. » J'ai trouvé que c'était un beau résumé de cet imaginaire.
Et c'est un texte que personnellement j'aime beaucoup. Ça s'appelle le Lo Shi Ming, c'est-à-dire le maxime de l'humble demeure. Et l'humble demeure, effectivement, alors je n'ai cité que les deux premières phrases, et la suite se dit que la vertu d'une demeure, c'est parce que j'y réside.
Bien sûr, c'est l'homme qui fait tout.
Voilà, absolument.
Alors le jardin chinois s'exporte en Europe au XVIIIe siècle et vice-versa, donc il y a des influences aussi bien chinoises en Europe que occidentales en Chine.
Moi, je m'intéresse beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, au regard croisé. Moi, je pense que la culture, il faut que, justement, il y a la grande diversité de ces cultures, mais aussi de s'enrichir du regard de l'autre, l'altérité. Et effectivement, au XVIIIe siècle, nous avons un échange absolument extraordinaire. Alors, du côté de la Chine vers l'Occident, nous avons au sud et au nord, il y a toujours cette dichotomie dans en Chine. Au sud, vous avez un jeune Écossais qui est venu, qui s'intéresse beaucoup à l'architecture et qui a pu visiter quelques jardins lors de son séjour dans la ville de Canton. Et à son retour, il va devenir un architecte célèbre puisqu'il va venir en France se former à l'école de Blondel. Après, il va faire le grand tour en Italie. À son retour en Angleterre, il va devenir l'équivalent de l'architecte en chef du roi d'Angleterre. Donc c'est William Chambers, et qui va aussi être un passeur de jardin absolument fantastique, puisque à côté de ce qu'il va réaliser, notamment Somerset House, qui est le grand centre administratif de Londres, il va réaliser le Kew Garden. Et il va donc faire passer... Donc je n'entre pas dans les détails pourquoi il a fait ceci, c'est toute une histoire, mais il va faire passer le concept chinois du jardin dans une Europe qui est en train de chercher autre chose, qui est en train de délaisser justement le jardin classique à la française avec sa géométrie, son axialité, la grande perspective, pour quelque chose que lui va introduire et qui est la sinuosité. Et ceci se passe du côté de Canton, et puis tout plus au nord, dans la capitale, vous avez les jésuites, une communauté s'y était installée depuis déjà quelques temps, et plusieurs jésuites étaient au service de l'empereur de Chine. Et un jésuite français, Jean-Denis Attiré, va, par sa qualité de peintre et de décorateur, puisqu'il va participer à la décoration des logements de l'empereur, à la cité interdite, par des peintures Trembleuil, et pas d'autres également, des peintures à l'huile, et il va également participer à la décoration du Yuan Mingyuan, le jardin de la clarté parfaite. De par sa position, il va écrire, puisque ces jésuites ont tenu une correspondance absolument remarquable avec les plus grands savants intellectuels de l'époque, et Jean-Denis Attiré va écrire une lettre qui va décrire les maisons de plaisance de l'empereur de Chine, et qui va aussi contribuer à répandre ce goût pour l'objet chinois, et qu'on va appeler donc les chinoiseries. Et puis aussi des échanges extrêmement fructueux, c'est le cas de le dire, dans les plantes. Le voyage des plantes, hein, puisque nous avons le père Chéron d'Incarville qui va entretenir une correspondance avec les Jussieu, et beaucoup de plantes, de graines, vont passer par cette voie, et on va recevoir des graines en Chine qu'on va semer dans les jardins de l'empereur de Chine, mais le jardin des plantes va recevoir énormément de ces semences, et beaucoup de plantes dans les plus grands jardins du XVIIIe siècle proviennent de Chine. Et de l'autre côté, les jésuites vont aussi bâtir pour l'empereur de Chine un ensemble de palais, de jardins avec des fontaines, des jets d'eau, qui sont les palais à l'européenne au sein de ce grand jardin qui malheureusement va être brûlé en 1860 et qui s'appelle le Yuan Mingyuan, le jardin de la clarté parfaite.
Et ça, c'est un sujet que vous connaissez très bien puisque vous avez écrit un livre dessus. Alors je trouve que les jardins chinois ont des noms tout à fait fascinants. Moi, j'ai relevé le jardin de l'attardez-vous. Il y a aussi celui de l'humble administrateur. Et puis celui le jardin du contentement préservé. Alors, ces noms sont magnifiques. Où peut-on aujourd'hui en Chine trouver les plus beaux jardins à part Suzhou et Hangzhou?
Les plus beaux jardins, donc les jardins de lettrés. Nous parlons donc de ce type spécifique de jardin. Les plus beaux spécimens se trouvent certainement donc dans cette région que les Chinois appellent Jiannan, c'est au sud du fleuve. Si vous voulez, grosso modo, c'est entre Shanghai et Nankin. Donc à Nankin, vous avez de très beaux jardins, à Suzhou bien sûr, à Yangzhou, à Zhenjiang, à Wuxi. Pour moi, bien sûr, j'aime énormément les jardins de Suzhou. Le plus beau jardin à Suzhou, personnellement, c'est tout à fait, c'est extrêmement subjectif. Le jardin est forcément un
comme
objet subjectif, oui. Absolument. Pour moi, le plus beau, c'est peut-être le maître du filet. Ce n'est pas très grand, mais vraiment tout est ciselé, la moindre détail est extrêmement intéressant. Et l'un des plus beaux aussi, peut-être, c'est à Wuxi, le contentement préservé, justement, avec une pièce d'eau absolument magnifique. Et j'aime beaucoup, et puis Wuxi peut-être aussi, parce que je suis sentimental, parce que ma mère est née à Wuxi.
Oui, effectivement, ça peut aider. Donc, la tradition chinoise de respect de la nature, moi j'ai l'impression qu'elle est un petit peu malmenée aujourd'hui avec l'exploitation au maximum, au nom du profit maximum et la pollution qui en découle. Est-ce que vous pensez que cette tradition, alors en une minute trente, hein, cette tradition de respect de la nature, qu'est-ce qu'elle va devenir demain?
Ah, vaste sujet. Vaste sujet. Je crois que la Chine essaye en tout cas de... Mais c'est difficile avec cette démographie. Je pense que le problème est beaucoup dans la démographie. Le contrôle de cette croissance, il faut absolument maîtriser. Pour revenir au jardin, comment un jardin est un lieu intime. Comment voulez-vous visiter un jardin avec plusieurs milliers de personnes autour de vous, avec des guides, avec des mégaphones en train de hurler?
Je sais, j'ai essayé.
Voilà, vous avez essayé, vous avez eu du mal.
C'était vraiment une mauvaise expérience.
Alors, je crois que comme beaucoup de dossiers en Chine, je crois que la démographie constitue une clé. Mais en tout cas, la Chine essaye, je voudrais terminer sur une note optimiste, la Chine essaye de... En tout cas, Xi Jinping le dit. Et les propos de Xi Jinping sont extrêmement prémonitoires.